Là, si vous êtes à l'heure, donc pas de problème, on va commencer. Donc, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, tous ceux qui sont là, les services de l'État et tous les citoyens, les présidents d'associations et autres qui se sont déplacés, merci de vous retrouver ici pour assister à quelque chose, on le disait avec Pierre-Yves, qui est une première, parce que ce rapport sénatorial ne sera pas présenté à l'avant-première à Paris comme d'habitude. Il est présenté pour une fois sur le terrain avec les gens directement concernés. Donc, vous aurez les prémices de ce rapport, qui est un rapport, alors je tiens à le dire, vous avez compris tout de suite que lui il est de gauche, moi je suis de droite, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à ma gauche, mais que nous avons travaillé, c'est pour vous permettre de vous y retrouver, et donc ça nous a permis de travailler ensemble, on ne savait pas au départ exactement ce qu'il pensait, ce que je pensais, et puis vous verrez, le rapport, il est co-signé en fait, hein, c'est le rapport du rapporteur, mais avec un président. Et le président que je suis, les discussions que nous avons eues avec les services, je tiens à remercier la présence ici, M. Virieux, qui représente les services du Sénat, et qui nous a accompagnés avec toute son équipe sur, je dirais, toute la durée de cette mission-là, eh bien, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un échange extrêmement, un dialogue extrêmement fructueux entre nous et entre vous, et avec vous. Ce rapport est fait avec... plus de 64 auditions qui ont été faites, j'allais dire, tous ceux qui ont souhaité nous donner une indication, et est issu des inondations catastrophiques que vous avez subies ici dans le Var. Et c'est d'ailleurs Pierre-Yves Colomba qui a proposé au Sénat donc d'examiner cette situation qui ne pouvait pas être satisfaisante parce que malheureusement elle a été dramatique et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Mais moi qui suis des Alpes-Maritimes, qui suis maire d'une ville de 50 000 habitants traversée par des cours d'eau, eh bien il y a encore quelques jours, nous avons eu des inondations, nous avons eu de l'eau qui est montée un peu trop haut, etc., etc. Donc on est tout à fait à même de comprendre, j'allais dire, la problématique de ce dossier d'inondation qui vous a touché dramatiquement, qui pourrait retoucher dramatiquement notre pays si nous ne faisions pas un certain nombre d'efforts dans ce domaine-là. Alors, la sensibilité que j'ai dans ce cadre de cette mission, je dirais, d'études, d'informations sur ces inondations, m'amène à en deux mots commençant, et je passerai ensuite la parole au rapporteur, et puis ensuite il y aura ce dialogue avec la salle, à vous dire que non seulement nous avons travaillé ensemble de manière tout à fait sereine, loyale et, me semble-t-il, efficace, puisqu'on aboutit à un rapport unique, il n'y a pas deux rapports, il n'y a pas celui de Colomba, celui de Nègre, mais il y a un rapport que je co-signe, je suis, j'allais dire, mon rapporteur, bon, pour l'essentiel, et ce sont que des nuances qui nous ont séparés. C'est-à-dire que nous avons une vision pragmatique de maire avant d'avoir une vision idéologique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on constate en deux mots commençant à mon niveau? Je dirais simplement que les inondations sont des phénomènes aléatoires, on en est tous d'accord, mais récurrents. Et ça, on a découvert que finalement, il y avait plus souvent d'inondations que ce qu'on pensait. Alors, on a tendance à les enterrer, on a trouvé de l'amnésie collective, au point qu'on en est à remettre sur les portes des mairies ou des endroits où il y a eu une inondation, un trait pour indiquer, tiens, en 1918, il y a eu une inondation à telle hauteur, etc. Vous allez, on a eu l'occasion de sortir un petit peu, et puis moi-même, je suis jumelé avec une ville de Bavière du Sud qui est traversée par le Danube, et bien sur la mairie, qui est un monument très ancien, qui date du Moyen-Âge, vous avez la première crue marquée à la porte d'entrée de la mairie, qui borde le Danube d'ailleurs, hein, eh bien, elle date de 1512, quelque chose comme ça, c'est marqué 1512, et puis, à peu près une fois par siècle, vous avez un trait qui indique les hauteurs d'eau. Et dans cette ville-là, dans ma ville jumelle, qui fait à peu près 50 000 habitants, eh bien, ils se sont adaptés aux inondations. Et c'est un peu la découverte, et je dirais, Pierre en parlera de Sommières, mais si vous voyez la politique qui a été menée dans le Pays-Bas suite aux inondations catastrophiques des années 50, c'est une philosophie légèrement différente que le rapporteur ici présent vous présentera plus en détail que moi, mais cette philosophie, c'est de prendre le problème pas uniquement sous la forme d'une réglementation. Il n'y a qu'à Faucon, j'allais dire, si je simplifie. D'ailleurs, l'essentiel est supporté par l'État au niveau de la réglementation et au niveau, effectivement, tu as raison, il me dit qu'il faut envoyer le film. Bon, mais on est tellement passionnés qu'on oublie le film. Tu as raison. Mais je dis que la réglementation est supportée par l'État et les dépenses par les collectivités territoriales. Donc là, on va commencer la discussion, monsieur Zoukrev. Donc, je me tais, tu as raison de m'arrêter dans mon élan, et la mission commune d'information vous passe un petit film pendant quelques minutes. À condition qu'il démarre, hein. Voilà.
Le Var a connu deux ans de suite, en 2010 et 2011, des inondations catastrophiques. En novembre 2011, c'est tout le sud-est de la France qui était touché. Le Sénat a créé en février 2012 une mission commune d'information pour comprendre les causes et améliorer le dispositif français de lutte contre les inondations.
Aujourd'hui, après l'épisode de 2010 qui était exceptionnel, unique dans l'histoire, après il y a eu 2011. Donc à 18 mois de distance, on a eu des épisodes majeurs de risque. Donc la perception des élus a évolué, et celle des associations bien sûr autant. Cette prise de conscience qui est fondamentale pour agir. Tant que le politique ne prend pas conscience, il n'agit pas. Notre travail, ça va être, on sait déjà, d'essayer de démonter cette pelote, de faire les nœuds, pour essayer de faire en sorte que les dispositifs qui sont en place fonctionnent le mieux possible. Parce que le paradoxe, c'est qu'on a des acteurs qui sont de la meilleure volonté possible, il y a des engagements qui sont de vrais engagements, et au final, des règles de fonctionnement qui font qu'on n'aboutit pas.
Entre le mois de mars et le mois de juillet, les sénateurs ont auditionné une soixantaine d'experts.
Dans toute cette zone du sud-est, hein, et les côtes de la Méditerranée, on a ce qu'on appelle les épisodes seigneurs, c'est-à-dire qui reviennent et au printemps et à l'automne, où vous avez la rencontre de la mer chaque nuit qui vient de la Méditerranée avec des courants d'air froid qui tombent sur le continent, et ça provoque des averses diluviennes et donc des cours d'eau. Donc, tant en juin 2010 que ce qui s'est passé en novembre 2011 sont des phénomènes de cette nature-là.
Plusieurs déplacements ont été réalisés par la mission commune d'information. Elle s'est notamment rendue au mois d'avril dans le Var et les Alpes-Maritimes afin de constater sur place l'étendue des dégâts.
Les images sont spectaculaires, vous voyez des dégâts considérables, une vallée complètement déformée, et à peine que les élus, pour protéger le reste, ont essayé de sauvegarder ce qui reste en aménageant ces dégâts différents. Donc pour éviter un débordement demain, il faut les autoriser, il faut les aider à faire des travaux de confortation, etc.
Vous avez la hauteur d'eau juste sous le bord.
L'usine Sommep, à Draguignan, dans le Var, avait été touchée par ces inondations. En juin 2010, l'eau y avait atteint jusqu'à 1,70 m.
Je pense qu'il n'y a pas eu de message d'alerte de données, on nous a jugé par pouvoir beaucoup, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il allait nous tomber dessus, si je puis dire.
Des rencontres ont été organisées dans les départements concernés, avec les élus locaux, associations, habitants sinistrés et experts présents lors des inondations.
Donc on s'est rendu compte en 2010 qu'on a eu des niveaux d'eau jamais atteints de mémoire d'homme. Et le problème, c'est le traumatisme que ça laisse après coup, parce qu'on a chaque fois qu'il pleut très fort, on est inquiet. Et d'autre part, il y a des gens qui ne se sont pas bien sortis du tout. Il y a même des gens, des entreprises et des particuliers qui n'ont pas été indemnisés du sinistre de 2010. Il y a d'autres qui ont été mal indemnisés et qui ont été exclus de leur assurance.
Nous, ce qu'on retient de ces deux épisodes, c'est que notre présence est très importante, notre présence auprès de la population, que l'indispensable, c'est préparé à être prêt. Donc c'est une de nos campagnes de ce qu'on veut mener à travers la France. Pour nous, le plus important aujourd'hui, il est d'abord préparer notre réponse, la réponse de notre département dans le Var, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de la population le jour où ça arrive, puisque ça recommencera, on le sait.
Le rapport a été adopté par la mission commune d'information le 24 septembre 2012.
Voilà, donc vous avez vu en quelques minutes un résumé extrêmement succinct de cette mission qui a été adoptée au niveau du Sénat et donc l'on vient nous présenter avec Pierre-Yves. Alors, vous remercions une nouvelle fois de votre présence. Voilà, ça me permet de passer immédiatement la parole à
Bien, monsieur le sous-préfet, merci d'être là avec les services de l'État qui ont pu être se rendre disponible. Ça a été un peu, pas improvisé, mais ça a été mis en place assez tardivement, cette idée un peu nouvelle, enfin, franchement nouvelle plutôt, de commencer donc à présenter les résultats de nos investigations sur place plutôt qu'à Paris. Donc, je salue aussi les maires qui sont là, les élus, et puis les présidents d'associations, tous ceux qui se sentent concernés par ce qui s'est passé et par ce qui risque de continuer à se faire. Et puis, c'était aussi une façon, bon, c'est non seulement une façon de remercier ceux qui nous avaient aussi chaleureusement reçus, et on avait dialogué dans de très très bonnes, dans de très, très bonnes conditions, mais aussi une façon de mettre en accord nos conclusions avec la réalité, enfin, les faits avec nos conclusions, c'est-à-dire que ce que nous préconisons, c'est de mieux associer les élus, la population et les services de l'État, de faire l'inondation une affaire commune et pas seulement l'affaire de services spécialisés. Alors, bien vous le savez, donc le Var a vécu deux épisodes calamiteux à 16 mois d'intervalle, en juin 2010 et en novembre 2011, qui ont fait quand même 23 morts et 2 disparus, et 1,2 milliard d'euros de dégâts, et la seconde, qui donc, elle, ne s'est pas cantonnée au Var, mais a concerné plusieurs départements du sud-est de la France, a fait 4 morts, entre 500 et 500 millions d'euros de dégâts. Alors, les objectifs, ce qui s'est passé, c'est que, au départ, nous avons procédé comme toutes les missions, comme tous les retours d'expérience, comme on dit, les rétex. Bon, on essaye de faire un état des lieux, de trouver des explications. Et puis, chemin faisant, nous sommes allés bien plus loin que ce qu'on fait généralement, et qui, généralement, se limite à dire, ben voilà, la réglementation, c'est ça. Elle n'a pas été respectée. On espère que la prochaine fois, elle le sera. Moyennant quoi, on a fait le constat dans tous les départements qu'on a visités, il ne se passe pas grand-chose. Bien. Donc on a essayé de comprendre et d'aller un petit peu plus loin et d'analyser vraiment les choses plus en profondeur. Alors, les résultats, eh bien, c'est que on a dépassé un peu notre cadre initial et on est allé en quelque sorte de surprise en surprise. La première surprise, la première conclusion inattendue, c'est que en fait, il y avait eu ces deux épisodes, juin 2010 et
novembre 2011 n'avait vraiment pas de rapport. C'est-à-dire qu'il y a crise et crise et qu'on se trouvait dans face à des événements qui étaient très différents. Le premier événement brutal qui dépassait complètement les possibilités, donc les possibilités des services de secours, pas seulement parce que effectivement ils n'étaient pas préparés, enfin, etc. On y reviendra, mais parce que c'était vraiment quelque chose d'inouï. Sachez par exemple, vous avez eu tout à l'heure donc une rapide interview du directeur, donc directeur, le président directeur de Météo France, qui nous a dit on a fait mouliner les résultats, on a remouliné sur nos modèles les résultats de 2010 et on n'a pas obtenu les résultats réels. Ce qui prouve que les modèles de simulation n'intégraient pas ce type d'événement. Et en interrogeant d'autres que ceux qu'on interroge habituellement, des universitaires, etc., des gens spécialisés dans le problème des crises, on s'est aperçu que ce n'était pas spécial au département du Var, mais il y avait... Alors, on les connaît souvent parce que c'est des événements de très grande ampleur, type Katrina, type Fukushima, enfin, etc., mais des situations telles que, finalement, les moyens ordinaires et habituels de réponse sont inadaptés et on est obligé de faire fond sur la capacité réflexe, sur la capacité d'auto-organisation des populations. Donc, d'où la question, est-ce qu'on peut continuer à penser l'organisation de la gestion de crise en général sans imaginer que, précisément, j'allais dire le plan B, oui, c'est-à-dire que peut-être tous les dispositifs qu'on met en place ne fonctionneront pas. Alors, je ne vais pas insister longtemps pour pas trop perdre de notre temps. On y reviendra si vous le voulez. En juin 2010, donc, et en juin 2011, des événements très très différents. Ensuite, et en 2011, donc ça a mieux fonctionné qu'en 2010. Certes, parce qu'entre-temps, on avait fait un certain nombre de choses, mais surtout parce que les événements étaient totalement différents. Ensuite. Alors, l'autre question que nous nous sommes posées, ayant constaté, mais ça, sauf si vous le souhaitez, je ne reviendrai pas en détail sur les dysfonctionnements qu'on a pu constater et en 2010 et en 2011, parce que tout ça fait l'objet de tous les rapports. Hein, notamment en 2010 qu'il n'y avait pas d'équipement, que les services de secours étaient bloqués, enfin, etc. Bon, d'où on s'est posé, y a-t-il une exception varoise? Est-ce que les Varois sont particulièrement ont une attitude particulièrement atypique s'agissant de l'attitude devant ce type de crise, devant l'inondation? Alors, on s'est aperçu que la première surprise, c'est bon, pourquoi finalement ces inondations, notamment celle de 2010, a constitué une telle surprise, alors que on le verra, il faut le dire, l'inondation est un risque bien varois. C'est un risque bien varois. Alors, on a pu bénéficier depuis, on les cite, des travaux et des conférences du docteur Guérac, M. Tourguet, notre conservateur général des archives, nous avait fait savoir connaître sur leurs travaux, donc sur l'histoire des inondations dans le Var, et notamment de la fameuse inondation de 1827, mais aussi, si on fait un petit recensement sur les 30, les 50 dernières années, on s'aperçoit que c'est tout à fait régulier. Donc, on peut se poser la question, mais pourquoi cette amnésie d'un phénomène qui est pourtant un phénomène pas exceptionnel, réel? Alors, des éléments d'explication de cette exceptionnalité, et qui a eu quand même plus que des dysfonctionnements en 2010 et en 2011, c'est le fait que l'omniprésence donc dans les consciences du risque feu de forêt ces 25 dernières années, avec des catastrophes tout à fait majeures, occulté complètement le risque inondation qui était là, mais qui n'avait pas créé de mort, pas causé de mort. Ensuite, un réel sous-équipement pour cela, ou lié en tout cas, un sous-équipement par rapport à d'autres nos équipes départements en matière de prévision, d'alerte sur de l'inondation, et puis une particulière faiblesse de l'organisation de la prévention. On y reviendra parce que c'est là le sujet le plus important, nous a-t-il semblé. Alors, je vais y passer très vite, puisque ça, c'est dans tous les rapports. Une politique d'information, donc, en pointillé, la prévention par l'interdiction de construire, plutôt aléatoire et en tout cas mal comprise, un entretien défaillant des cours d'eau, une faiblesse de gouvernance, tout ça, vous le trouvez dans tous les rapports, notamment celui de la Chambre régionale des comptes, où cette question, y a-t-il une exception varoise ? Et alors, visitant, interrogeant les autres acteurs dans d'autres départements du sud-est de la France, eh bien, on s'est aperçu que, partout, c'était tout à fait semblable. Ce qui s'était passé dans le Var était tout à fait semblable à ce qui s'était passé ailleurs. Des départements qui sont dans une situation à peu près identique sur le plan climatique, avec parfois certains, je pense par exemple au Gard, avec le système Rhône qui ajoute sa petite touche qui n'est quand même pas rien du tout, un développement démographique et de la construction, ce que la Chambre régionale des comptes a appelé la fièvre de construire, un même développement économique, qui a donc aussi eu ses ressentissements sur les méthodes de culture et de l'agriculture. Et en plus, dans le Var, donc un retard en matière de prévision et d'alerte, qui a été d'ailleurs partiellement rattrapé en 2011, des problèmes en matière de prévention d'inondation, partout, même si des efforts notables ont été réalisés. Et bon, ça fait toujours sensation de dire « Ouais, le centre de secours, il était en zone inondable ». Mais je peux vous dire que ce n'est pas une spécialité varoise. On en a rencontré un petit peu partout. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. Mais je dis que c'est quand même... C'est étonnant que ça soit comme ça. D'où l'interrogation. C'est-à-dire que, bon, il ne suffit pas de dire « Bah oui, il faudrait mieux pas ».« Bah oui, il faudrait mieux pas ». Mais pourquoi c'était là ? Et en particulier, on connaît des départements que je ne citerai pas, où on a même des préfectures en zone inondable et où la cellule opérationnelle s'est retrouvée, tu en connais aussi, sous l'eau au mauvais moment. Bon. Donc, une impréparation, certes coupable, mais qui est tout à fait comparable à ce qui se passait dans les autres départements. Alors encore une fois, et vous le verrez, je ne dis pas ça pour s'en satisfaire, dire « bah ouais, c'est partout pareil », etc. Mais ça interroge, parce que les gens ne sont pas complètement abrutis quand même. Bon. Donc pourquoi c'est comme ça ? Donc d'où l'idée que finalement je parlerai plutôt de retard que d'exception, ce qui n'est pas une façon d'exonérer personne de ses responsabilités. C'est-à-dire simplement, il faudrait peut-être retrousser les manches. Bon. Donc... qu'est-ce qu'on a constaté ? Eh bien, on a constaté que partout, on a commencé à se bouger et à retrousser les manches à partir du moment où il y a eu vraiment des crises majeures, des inondations catastrophiques. C'était clair dans le département du Gard, c'était clair à Nîmes, c'était clair aussi dans les Alpes-Maritimes, dans le Vaucluse, enfin, etc. Et comme il s'est trouvé que ces éléments calamiteux... enfin, très catastrophiques, ont été antérieurs à ce qui se passait dans le Var, ils se sont bougés un peu plus tôt. Et aussi, quelque chose qui apparemment échappe, ou en tout cas est pris simplement comme mauvais vouloir, le désir des populations, y compris ceux qui ont été vraiment sinistrés, on a vu des exemples dans le Gard qui sont tout à fait spectaculaires, de pouvoir continuer à vivre là où ils vivaient avant la catastrophe. Donc, ce qui veut dire que simplement dire « on va faire le vide pour régler le problème », ça répond peut-être pas au problème. Des difficultés aussi récurrentes dans la mise en œuvre des politiques de prévention. Alors, on retrouve, ça c'était un cri de tous les élus partout, la police de l'eau, elle nous empêche de protéger les populations. Alors là aussi, bon, c'est trop général pour que ça n'ait pas une signification. Une mise en place des PPRI conflictuelle, pour ne pas dire acrobatique. Toutes les fois, c'est des histoires... ça ne se fait pas dans la joie, ça c'est clair. Alors, on semble en prendre son parti. Bah, c'est comme ça, la nature humaine est faible, les maires veulent construire, ils ne sont pas responsables. Oui, moi je veux bien. Mais enfin, quand même, ils ne sont pas complètement obtus. Pourquoi ça se passe comme ça? Donc c'était ça la question à laquelle on est arrivé. La question de solidarité qui est partout la même. Solidarité entre l'amont et l'aval, entre les zones protégées et les zones qui ne le sont pas, chacun disant « et moi, et moi, et moi ». Et la question, qui paye? Difficulté de financement partout. Bon. Donc, une situation qui n'est pas spécifique au département du Var. Alors, on a, si vous voulez, est arrivé à la conclusion que finalement, s'agissant de ce qui s'était passé dans notre département et ailleurs, il était possible d'améliorer l'efficacité qui est déjà réelle hein, en matière de gestion de crise, voire de l'après-crise, par exemple en matière de prévention, par rapport en matière d'alerte, en matière de déclenchement, en matière d'organisation des secours, etc. Bon, pour être allé un petit peu aussi à l'étranger, on s'aperçoit qu'on a quand même un système qui est à ce niveau-là qui est performant. Alors, on peut toujours l'améliorer. Je vous renvoie au titre 4 du rapport, parce qu'autrement, on va y passer la nuit. Mais disons que ça, on peut l'améliorer en restant dans la logique habituelle, donc classique, donc de ce qu'est la lutte contre l'inondation. Par contre, on est arrivé à la conclusion qu'en matière de prévention, on ne pourrait pas dynamiser la politique qui est en cours si on ne posait pas le problème autrement. Alors, d'où l'idée, c'est peut-être, vous en jugerez vous-même, ce qui est le plus original dans notre rapport, l'idée qu'il s'agissait de repenser la politique de prévention de l'inondation. Allez-y. Alors, quelques constats. La politique de prévention, telle qu'on la pratique chez nous, c'est beaucoup de réglementation, notamment PPRI, et peu d'aménagement. Bon, parce que l'aménagement, c'est quoi? Ben, c'est ce qui se fait soit sous l'initiative donc des élus locaux, ce qui se fait dans le cadre des PAPI, et puis le plan Grand Fleuve, enfin qui ne nous concerne pas, qui là aussi donc permet de faire un certain nombre de choses. Premier constat, donc c'est beaucoup de réglementation, peu d'aménagement, ce que j'appellerais de prévention active, et une politique, constatons-le, qui n'a pas atteint ses objectifs. D'où l'idée, on va essayer de se livrer à une radiographie du système, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, donc, j'ai bien été obligé de constater qu'il s'agissait d'une politique qui reposait sur des présupposés et sur des non-dits qui n'étaient jamais analysés. Le premier, ce que Louis a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on traite le risque inondation comme quelque chose d'exceptionnel. La meilleure des choses, c'est qu'il relève de l'assurance, hein, comme quelque chose d'exceptionnel. Bon. Alors que c'est un risque récurrent. On l'a vu pour le Var. Bon. Mais je veux dire qu'il faut quand même savoir qu'il y a quand même 19 000 communes en France qui sont en zone inondable. Ce n'est pas trois communes qui sont inondées de temps en temps. Bon. Donc il faut peut-être prendre la dimension du phénomène. Aussi, absence de stratégie claire face à ce risque général et récurrent, alors à la différence des Pays-Bas, par exemple. On a été très, très impressionnés. On n'y est pas allé, mais on a fait venir des gens qui nous ont expliqué comment ça se passe aux Pays-Bas. Alors, je sais bien, on dit les Pays-Bas, c'est pas la France, bien évidemment. Bon, en 1953, ils ont eu 1800 morts, je crois. Bon, bien. Mais quand vous voyez les investissements qu'ils font, comment ils prennent le problème, etc., et surtout, indépendamment des mesures qu'ils prennent, c'est-à-dire la prévention, maximum. Bon, ce qui est frappant, c'est la logique de leur dispositif. C'est-à-dire qu'ils ont un système cohérent. Donc, ce pourquoi nous militerons, c'est plutôt d'avoir un système, d'avoir nous-mêmes adapté à notre pays, qui n'est pas les Pays-Bas, bon, sur ce plan-là, heureusement, bon, d'avoir la même logique. Aussi, l'absence de priorité dans les objectifs. Je veux dire que, bon, on fait comme s'il était tout à fait possible, sans difficulté, de concilier, je disais, la prévention, la protection des populations et la protection, je crois que c'est du Veyron, du Var, ou du Gardon, je ne sais pas d'où, que c'était la même chose, qu'il n'y avait pas du tout de problème pour concilier les objectifs, l'ardente obligation de faire des logements et puis de ne pas construire, parce que c'est dangereux. Bon... l'idée, c'est que, bon, ben, finalement, si vous faites suffisamment d'études, suffisamment longtemps, eh ben, vous arriverez à les concilier. Ben, peut-être, hein. Enfin, je veux dire, on aimerait bien, et ça, on le voit même au niveau des services de l'État, au ministère de l'Environnement, c'est pas les mêmes qui s'occupent des trucs. Bon. Où vous avez l'ONEMA qui s'occupe du déficit d'eau, et puis, je sais plus qui, le CHAPI qui s'occupe du trop d'eau. Bon, de l'excédent d'eau et des inondations. Bien. Donc, il faudrait peut-être simplement se poser la question. En l'état actuel, moi, j'ai mes préférences, mais en tout cas, normalement, on devrait pouvoir dire, quand on ne sait pas qui doit l'emporter, et ben voilà, c'est celui-là, de hiérarchiser, en quelque sorte, les objectifs. Et alors, aussi, ce qui est tout à fait frappant, c'est l'absence de débat. Nous sommes dans le règne des experts. Encore, il y a une magnifique... Je viens de recevoir le rapport de la Chambre des comptes, je ne peux pas m'empêcher... où il est dit que l'aléa, comme dit l'administration, ne se discute pas. Hein. Je ne sais plus où c'est. Vous dites, mais vraiment, il faut. C'est scandaleux qu'on puisse discuter ce que les experts ont dit. Bah ouais, mais enfin, les experts, d'abord, ils ne sont pas toujours d'accord. Et puis moi, j'aimerais bien, on en a des exemples dans le Var, je le vois en face de moi, notamment s'agissant du rôle des. Jean-Marc Milesi. S'agissant par exemple du rôle des embâcles ou pas des embâcles, c'est-à-dire de la nécessité d'entretenir les cours d'eau, ben un coup les experts ils vous disent qu'il n'y a pas de problème, s'il y a eu une vague, c'est pas dû aux cours d'eau, c'est pas dû à l'absence d'entretien aux embâcles, mais c'est dû à des phénomènes karstiques qui par ailleurs ont fait que le cours supérieur de l'Argent lui s'est bien tenu. Alors que la Nartubie était dans tous ses états. Puis à un autre passage, on nous dit qu'il y a eu des embâcles. Bon. Je pense que si les experts prenaient aussi la peine, si on avait vraiment une je dis pas une concertation à ce niveau-là, mais un débat sur ce qui s'est réellement passé, ce qui a été vécu, enfin, etc., et prendre le phénomène non pas comme simplement un phénomène hydrologique, d'hydrographie, etc., mais comme un phénomène aussi social, humain, un événement qui concerne un territoire dans sa globalité, je pense qu'on aurait plus de chances d'aboutir. Alors aussi, je dirais que c'est une entreprise, vous n'écoutez pas, monsieur le sous-préfet, c'est une entreprise de camouflage financier extraordinaire. Parce que on s'aperçoit que ça, c'est des moyennes annuelles. Hein. Alors, on a eu toutes les peines du monde pour arriver à ces chiffres. Donc, ils sont contestables. Et notamment, s'agissant de ce que j'appelle le financement de la prévention active. Il a fallu... bon, je ne garantis pas, mais l'ordre de grandeur, je vous le garantis. Bon. Donc, en moyenne, c'est pas quand même rien du tout. Annuellement, en France, les inondations... Alors, inondations au sens large, hein, ça fait à peu près... 1 milliard de dégâts. Les indemnisations au type du régime catastrophe naturelle, c'est 530 millions d'euros. La prévention active, c'est-à-dire faire des digues, aménager les cours d'eau, les entretenir, etc., c'est entre 250 et 350 millions. Et quand vous savez, là c'est les chiffres que Georges Ginesta donne annuellement dans son rapport sur la sécurité civile, la protection civile, le budget, c'est 5,7 milliards, c'est pas 350 millions, et dont 4,7 milliards à la charge des collectivités territoriales. Camouflage, parce qu'en fait on s'aperçoit que la prévention active, c'est la parent pauvre. Du dispositif, l'essentiel étant mis sur comment dire, sur la gestion de la crise et de l'après-crise. Et deuxièmement, que dans cette affaire, ce sont les collectivités territoriales qui financent le plus. 2/3 de la prévention est financée par les collectivités territoriales, 1/3 par l'État. Alors on a voulu être gentil. Budgétairement, ça représente quand même qu'un tiers du tiers. Parce que les 2 autres tiers, c'est les agences de l'eau qui sont financées largement par les taxes sur la consommation et le fonds Barnier, qui est quand même une surtaxe sur la surtaxe assurance. Bon. Donc, pas étonnant, moi je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut, que la réglementation règle tous les problèmes, etc. Mais sans financement de la politique de prévention, je doute qu'on aboutisse à quelque chose de particulièrement dynamique. Ensuite, alors, donc, déjà deux points de vue. Donc je vous disais, et puis j'ai constaté aussi qu'il s'agissait de ce que j'appelais un système autobloquant. C'est-à-dire que les mesures positives, les dispositions positives génèrent de tels effets pervers que ça se bloque et qu'on n'arrive pas à avancer. Alors, j'ai parlé de la récurrence des objectifs, des objectifs qui se contrarient, des populations élues et de services de l'État dans des relations antagonistiques, pardonnez-moi ce jargon sociologique, enfin ethnologique. C'est-à-dire que tout est objet de relations conflictuelles, est un peu excessif, mais ça discute, et en quelque sorte, on en arrive toujours, après avoir maximisé les risques au début, de la part de l'administration, une espèce de bargaining, je te donne un peu de droit à construire, mais ça n'a pas de sens, enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça se passe, hein, on va pas se cacher derrière son petit doigt, mais donc, ce qui nous permet de penser qu'il faudrait peut-être procéder un petit peu différemment, avec aussi cette curieuse amnésie, c'est qu'on oublie rapidement. Une fois le moment d'émotion violent passé, tout ça disparaît. Alors, je vous disais donc une administration qui maximise les précautions au suivi des marchandages, une gouvernance largement laissée à la carte et qui repose, l'exemple du Var est particulièrement évident, sur les collectivités territoriales. Et je vais faire aussi un petit chapitre là-dessus. Ce que j'appelle le glissement lent de la responsabilité au détriment des élus. C'est-à-dire que, juridiquement, la responsabilité de l'entretien, c'est les riverains. La police de l'eau sur les cours d'eau non domaniaux, c'est l'État, c'est le préfet. Moralité, et encore dans le rapport de la Cour des comptes, des comptes, c'est les collectivités territoriales qui sont mises en accusation. Bon. Elles le font parce que quoi ? Parce qu'elles font ce que, effectivement, les riverains ne peuvent plus faire. Puis on n'est plus dans la société paysanne, enfin, etc. Et on arrive à ce paradoxe. C'est que, en prenant des responsabilités, les élus se mettent en défaut. Et quand vous regardez la jurisprudence, c'est quand même assez savoureux. Quand on nous dit que les tribunaux administratifs ne font qu'appliquer la loi, vous me permettrez parfois d'en douter. Prenons un exemple. On parlait pas des d'embâcles. Personne n'est inquiété s'il n'a pas entretenu les berges de la rivière. Bon, alors que théoriquement, il devrait le faire. Par contre, si des embâcles viennent se coincer sur un pont, c'est le responsable du pont, c'est le maire, enfin, etc., qui risque d'être inquiété parce qu'il n'a pas fait dégager le pont. Bon. Peut-être. Mais je veux dire que ça pose quand même un petit problème. Ce qui fait que le problème, il est le suivant. Pas seulement le problème de transfert de responsabilité. Il faut bien qu'il y en ait qui soient responsables. Mais c'est surtout que ça n'incite pas à prendre des initiatives positives en matière, justement, de protection de l'inondation. Et j'avais repris la fameuse phrase du cardinal de Ray, on ne sent jamais de l'ambiguïté qu'à son détriment. Si on veut clarifier les choses, il faudra peut-être trouver des dispositifs qui soient un peu plus, où les responsabilités soient mieux précisées, et ceux qui auront les responsabilités, surtout, leur donner les moyens d'exercer la responsabilité. Donc constat, la politique de prévention n'est que la route de secours de la politique de lutte contre l'inondation. Elle repose essentiellement sur l'interdit en matière d'urbanisme et pour le reste, investissement en protection et entretien des cours d'eau. Elle est de fait largement sous-traitée aux collectivités territoriales, bien qu'elle relève de la pleine compétence de l'État et, j'allais dire, parfois aussi donc de l'entretien pour l'entretien des riverains. Donc d'où cette idée, peut-être la partagerez-vous, peut-être ne la partagerez-vous pas, mais c'est que nous pensons que sans intégrer, si l'on n'intègre pas la protection dans une logique plus large, celle de l'aménagement des territoires inondables, on se condamne à avoir une politique qui va de matière de prévention qui va avancer qu'à un quart. Donc notre idée, c'est qu'on ne saurait se résumer à protéger les territoires inondables, fût-ce en l'évident de leur population, mais en les aménageant pour les rendre habitables. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pouvoir construire partout. Hein ? Il y a des endroits où, manifestement, on ne peut pas construire, mais on ne peut pas simplement dire on va empêcher de construire. Oui, à certains endroits, mais à d'autres, il faut, et on va voir que c'est parfaitement possible, puisque ça existe. Dès lors, donc, il nous a semblé impossible donc, d'améliorer substantiellement l'efficacité de la politique de prévention, sans changer de paradigme, c'est un mot savant pour dire de manière de poser le problème, en quelque sorte, de poser la question. Alors, nous croyons, après avoir interrogé beaucoup de gens, qu'il s'agissait d'un changement, que ce changement, cette façon nouvelle d'aborder le problème était attendue. Vous me direz si c'est votre cas. C'était possible, puisqu'il existe des exemples d'appréhension différentes du risque d'inondation. Alors, je n'évoquerai pas les Pays-Bas, mais aussi en France. Par exemple, sur le très spectaculaire, je vous invite à y aller, en plus c'est très joli, d'aller à Sommières, dans le Gard. Il faut quand même savoir que une partie de la ville, et de la ville ancienne, est construite dans le lit majeur du fleuve, sous le pont. C'est assez spectaculaire. J'ai reproduit quelques photos dans notre rapport. La place du marché, quand il y a les grandes crues, elle est sous 7 mètres d'eau. Et elle recommence. Bon. Mais surtout, là, c'est l'aspect un peu spectaculaire que l'histoire explique, etc. Mais on s'est aperçu aussi qu'ici ou là, on a eu des exemples, par exemple, donc à Ajaccio ou à Nantes, ou etc., où à l'occasion, justement, de PPRI, à l'occasion d'une réflexion sur l'inondation, on avait essayé de repenser l'architecture de la ville, la façon de faire, la répartition des fonctions, enfin, etc. Donc, en intégrant le risque inondation. Le risque inondation n'ont pas vécu simplement comme un danger et comme simplement une clause d'interdiction, mais comme peut-être une chance pour pouvoir donner une nouvelle dimension, un nouvel élan, donc, à la ville. Donc, finalement, l'idée, ça serait de remplacer un objectif de protection totale, mais qui n'est jamais défini. Aux Pays-Bas, la partie la plus peuplée et la plus riche et la plus industrieuse des Pays-Bas, la Randstad, ils se sont protégés, vous nous entendez bien, contre le risque de retour de 10 000 ans. Dans les parties moins peuplées, soumises à subversion marine, de 4 000 ans autour des fleuves, entre 1250 et 2000 ans. Nous, Paris, paraît-il, est protégé pour 100 ans, sur la crue de Centenale. Bon. Le nord du bassin parisien, le nord-est, où il y a beaucoup d'industries, 30 ans. Bon. Mais là, on ne le dit pas. Je veux dire que ce contre quoi on se protège est présent dans la définition de l'objectif des PPRI, mais ça ne fait pas d'objet. Aux Pays-Bas, ça fait l'objet d'un débat national. Je dirais, ça crée une catastrophe. Bon. Mais je veux dire que c'est fixé et on essaye de se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Nous, personnellement, on préférerait qu'on nous dise, voilà, écoutez, hein, on va faire ce qu'il faut pour protéger contre la crue, je ne sais pas, centenale, cinquantenale, ou j'en sais rien, on verra, mais on va le faire. Plutôt que de dire, crue à l'aléa ne se discute pas, et puis après, ben, débrouillez-vous. Hein, bon, c'est pas très cohérent. Mais c'est vrai aussi que discuter du niveau de protection qu'on voudra a des implications financières, comme on le verra. Donc, remplacer un objectif de protection totale par une... jamais défini clairement, de gouvernance à déterminer, de fait les communes, mais les collectivités, mais c'est jamais clair, et sans moyens suffisants, par une politique d'aménagement territorial aux objectifs précis, dotée de moyens financiers et dotée de gouvernance. C'est là, je crois, un peu la nouveauté de notre approche, encore une fois que d'autres instances, par exemple au CEPRI ou ailleurs, c'est des choses depuis donc à l'ARP, donc qui fait son chemin. Bon, faire de la lutte contre l'inondation une priorité, l'intégrer dans un projet global et équitable d'aménagement du territoire, équitable parce que effectivement ceux qui sont protégés au détriment des autres, il faut en tenir compte, de façon à faciliter l'acceptation politique et sociale des contraintes par la création d'une dynamique de développement local, définir un niveau d'aléas clair et se donner les moyens de les atteindre. Donc, l'idée, c'est un ensemble, vous le verrez, on ne va pas rentrer dans les détails, sauf en répondant aux questions, un ensemble de préconisations qui nous ont semblé permettre de donner une cohérence à la politique de prévention. Alors, à toute allure, bon, l'esprit général, donc, c'est de mettre en place un opérateur par bassin, versant. Alors, sur une idée donc, de nos collègues de la région, un EPAGE, c'est-à-dire un établissement public par sous-bassin, et puis donc au niveau donc du bassin versant, donc un établissement public donc de bassin, que cette création soit obligatoire, que ces compétences soient obligatoires, fassent l'objet d'une définition législative, avec aussi des compétences optionnelles, et aussi un financement stable et pérenne de nature fiscale. Et nous proposons d'utiliser plusieurs possibilités, mais comme on le fait aux Pays-Bas, parce que, encore une fois, sauf à continuer à disserter et à faire des rapports pour dire que les gens n'ont pas appliqué la réglementation, on n'avancera pas si on ne finance pas la prévention, si on ne finance pas la protection. Ensuite, fixer aussi par voie législative la notion de cours d'eau, parce que alors ça aussi, il y a une définition jurisprudentielle, mais il n'y a pas de définition législative. Alors, ce qui fait que, par exemple, la police de l'eau vient verbaliser dans des talweg qui ne correspondent pas à la définition jurisprudentielle du cours d'eau, et que nous espérons un jour législative. C'est un épiphénomène, mais enfin, si déjà on arrivait à savoir ce que c'est, de quoi on parle, ça pourrait être intéressant. Faire de la lutte contre les inondations une priorité de tous les services et des opérateurs de l'État. Clarifier, on dit, c'est... Bon, là encore, c'est unifier, c'est pas très difficile. Encore faut-il réaliser qu'il y a un problème. Clarifier les compétences et les responsabilités lors de la prochaine loi de décentralisation. Nous essaierons de poser... à cette occasion, justement, notamment, qui peut être un chef de file. Nous pensons que, en matière de la prévention, puisque il s'agit donc d'aménagement du territoire, ça pourrait être la région qui pourrait être le chef de file de la prévention contre les inondations, parce que le département, sauf s'agissant peut-être de fleuves côtiers, etc., la région peut être un peu globalement un peu étroite, la région, le département un peu étroit pour avoir une politique globale, ce qui ne veut pas dire que les départements comme ils le font maintenant ne pourraient pas intervenir, bien évidemment. Assurer une péréquation entre les territoires inondables, entre ceux qui sont protégés et ceux qui ne le sont pas. Conforter la présence des élus locaux au sein des agences de l'eau. C'est là, parce que là aussi, je veux dire que mes collègues, le président des maires du Var, fait souvent le boulot, mais les gros bidules où on n'arrive pas à se faire entendre. Les associer davantage à la gestion de crise et de post-crise. Car c'est un point sur lequel on est passé vite, mais il y a tout un chapitre important sur la gestion de la post-crise. Beaucoup d'associations avaient insisté là-dessus. Hein, une fois que l'émotion est passée, une fois, etc., on voit l'énergie qui se détend et les choses qui traînent. On a tout un ensemble de préconisations, s'agissant notamment d'améliorer la mobilisation du programme 122, aussi, je pense que ça fera plaisir, un ensemble de préconisations concernant l'amélioration du régime catastrophe naturelle, dans un sens d'une plus grande responsabilisation. Mais aussi qui permettent aux entreprises de redémarrer plus vite et aux exploitations aussi. Et puis, maintenir effectivement une ingénierie publique de qualité dans les régions à risque, parce que là encore, j'insistais tout à l'heure sur le débat nécessaire. Je veux dire qu'on a besoin d'experts de l'État compétents, bien armés, enfin, etc., suffisamment nombreux, et dans des domaines, c'est extrêmement compliqué quand on descend dans la technique, extrêmement compliqué, de façon à avoir des constats partagés, et on ne pourra avoir des constats partagés que si on a vraiment, c'est pas à l'estomac que ça se fait, hein, mais c'est avec des vrais arguments rationnels. Aussi l'idée d'une meilleure participation de la population et des élus au processus d'élaboration de la décision, définir, s'agissant donc de la conception des PPRI, bon, qui est le cœur, enfin, qui est devenu le cœur du problème, alors que ça ne devrait pas être le cœur du problème, ça devrait être une partie du problème. Et il y a des exemples, on a eu des exemples, une meilleure participation de la population, une meilleure information sous des formes un peu plus lisibles que d'habitude, et dans l'élaboration des décisions, finalement été un plus. Définir le niveau de protection visé et aussi faciliter l'élaboration des PPRI en permettant une révision beaucoup plus simple. Parce que là aussi, une fois qu'on a terminé le PPRI, on n'y touche surtout pas, parce que tellement c'est compliqué, tellement ça a été conflictuel, on ne veut plus en rectifier. Mais on vous dit, mais si je fais tel aménagement, qu'est-ce qui va se passer? Rien. rien, parce qu'il faudrait changer le PPRI. Ah oui, on va recommencer encore le PPRI. Bon. Donc, voilà. Donc, si on avait quand même des procédures, encore une fois, que le PPRI, ce n'était pas le Graal auquel il ne faut pas toucher, mais simplement un élément du dispositif et qui soit, non pas négocié au sens « je te donne contre ça, contre ça », mais vraiment l'objet d'une définition partagée, je crois que ça serait tout à fait bien. Et puis, en contrepartie aussi, qu'il n'y ait plus cette dichotomie entre le PLU et le PPRI, que ça soit clair pour tout le monde, avec un contrôle de légalité qui s'exerce effectivement là où il doit s'exercer. Et ça aussi, ça a fait un peu le consensus général, je veux dire, même dans les différents rapports. Bon, pas seulement se contenter de réprimer les atteintes à l'environnement en milieu aquatique, mais une répression organisée des mouvements de terrain, c'est-à-dire des surélévations, etc., chacun réalisant ce qu'il veut, comme il veut, pour se protéger. Parce que précisément, il n'y a pas de plan global. C'est aussi une des conséquences. Alors, associer et impliquer la population dans la transparence, par l'association au retour d'expérience, par l'information préalable, le dialogue sur les règles de prévention, en modernisant la communication sur le risque et en donnant aussi un plus grand rôle aux volontaires à travers les réserves communales de sécurité civile. Il y a un point sur lequel nous avons beaucoup insisté et sur lequel il faut insister. C'est que on a dit que le Var, obnubilé par le risque feu de forêt, avait oublié le risque inondation. Mais le bénéfice secondaire, c'est que on a mis partout des comités communaux feu de forêt et qui ont été très importants dans l'action, la mobilisation au moment de la crise ont été fondamentales. Et quand on voit ce qui se passe, donc là, on est même franchement en avance. Bon. Alors, pas toujours se mortifier. Mais quand on voit par exemple ce qui se passe en Italie, dont le système n'est pas parfait sur tous les points, hein, notamment en matière d'indemnisation, bon. Comment ils mobilisent les gens? C'est un système qui repose très largement sur les volontaires. Et avec quelle efficacité ça se fait, on se dit que, sans vouloir les copier, mais là, peut-être en étendant cette notion de réserve communale de sécurité civile, et chez nous, ce qui se fait dans les comités communaux peu de forêt, je crois qu'on aurait véritablement un plus, pas seulement au moment de la crise, mais parce que ça serait des vecteurs, justement, d'intervention, de communication. On nous bassine avec la culture du risque. Ouais, la culture du risque. Mais s'il n'y a pas de médiateur, les gens qui arrivent dans la culture du risque, déjà, ils ont oublié, quand ils viennent acheter leur maison, que le chemin caillouteux qu'ils ont acheté sera inondé et ravagé rapidement à la première pluie. Alors, on pensait que la Nartubie va déborder. L'existence, justement, de ces médiateurs qui sont dans la population, enfin, etc., ça peut faciliter très grandement cette appréhension, de cette acquisition progressive. Je n'aime pas le mot culture de risque. Enfin, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des risques et qu'il faut faire attention et qu'il faut, prendre un minimum de précautions et savoir faire un certain nombre de choses. En matière de régime catastrophe naturelle, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait fait un certain nombre de préconisations, notamment, ça peut paraître bizarre, tous les propriétaires ne sont pas... Il n'y a pas d'obligation pour les propriétaires de s'assurer. Ça paraît un peu bizarre. Vous pouvez être indemnisé aussi pour des biens construits illégalement, ce qui est un petit peu bizarre aussi. Un système plutôt de bonus-malus en fonction des mesures prises par les assurés pour se protéger, je veux dire, pour se protéger contre ce quoi ils peuvent se protéger. C'est-à-dire éventuellement mettre une martelière à un endroit ou pas mettre forcément tous leurs ordinateurs à la cave quand ils sont en zone inondable, etc. Et c'est le contraire. Par contre, déconnecter ce qui se fait actuellement, la liaison entre la franchise et l'application d'un PPRI. Parce que les assurés, ils ne sont pas responsables s'il y a un PPRI ou pas de PPRI, s'il y a un PPRI prescrit, s'il a été ou non mis en place. Et assurer au niveau des assureurs, donc une gestion au plus près des assurés pour faire en sorte que la définition du dégât soit beaucoup plus rapide et donc l'indemnisation beaucoup plus rapide. Donc on a voulu une approche globale pour une politique globale. C'est un ensemble de préconisations, vous avez vu, qui forment un tout. Mais je voudrais, pour terminer, qu'il soit bien clair que s'agissant des collectivités territoriales et de leurs élus, on ne saurait accepter des compétences et des responsabilités nouvelles sans les moyens juridiques, humains et financiers de les assumer. Je veux dire que ça fait un paquet, c'est un paquet cadeau. Hein, c'est pas nous dire, ah bah oui, bah tiens, vous allez être responsable de faire des épages et puis vous vous débrouillerez pour le financement. Non. Si on les rend obligatoires, il faut que l'intendance suive. Parce que là, encore une fois, on se retrouvera dans les difficultés actuelle avec des responsabilités sans les moyens de les assumer. Donc c'est ça, au terme de notre réflexion, ce à quoi on est parvenu. Alors cela donnera lieu probablement à des propositions de loi dont l'avenir est très indéterminé. Mais nous pensons que si vraiment, c'est pour ça le titre finalement que nous avons donné un rapport, donc j'espère que vous avez pu en avoir un exemplaire, se donner les moyens de ses ambitions. Je crois que c'est ça. Si on veut vraiment avoir une politique cohérente en matière de prévention d'inondation, parce qu'en matière de gestion de crise, je crois qu'on a un dispositif, encore une fois, perfectible, mais qui fonctionne. Si on veut, en matière de prévention, donc se donner une politique efficace, vraiment efficace, eh bien, il faut essayer de repenser le problème autrement. Voilà, je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas assommé par tous mes 350. Je voulais faire au départ qu'on se limite à un que sais-je, 128 pages. Nous en sommes à 350 pages. Voilà, c'était un peu long, mais la matière était un petit peu compliquée. Merci de votre attention. Et on répondra à vos questions.
Bah écoutez, je pense que cette mission, elle est formidable. On vous remercie d'avoir traduit ce que les élus ressentaient et qu'il était difficile pour nous d'avancer avec toutes les incertitudes. Et là, on voit bien qu'il y a une partie, je m'excuse pour ceux qui sont des fonctionnaires, ce rapport, il a été fait par des élus. Il n'a pas été fait par des technocrates. Et je pense que le travail ensemble, il ne doit pas y avoir des services d'un côté qui imposent certaines volontés et de l'autre côté des élus des fois un peu perdus parce que l'avenir de notre région, elle dépend d'un partenariat total entre les habitants, les élus, les politiques et ceux qui sont chargés de faire appliquer la politique. Alors, vous avez dit un début qu'il y avait eu deux inondations, et je crois que c'est ce qu'on a ressenti, notamment pour la partie... Il y a eu la catastrophe de juin 2010, avec tout ce que ça a supporté, et il y a eu les événements de 2011 qui, au-delà, entre guillemets, c'était une inondation, comme on appelait chez nous, le débord normal de l'argent. C'est pas la même façon de faire. Alors aujourd'hui, on paye aussi certaines erreurs de certains élus. Ils ont cru qu'ils avaient découvert l'Eldorado dans un territoire agricole. Et je pense notamment à la vallée de l'Argent. La plaine de Fréjus, qui était la plaine agricole de Roquebrune, puisque nous, on est au Muy, mais enfin, la richesse, elle était à partir de Roquebrune. Roquebrune, Puget, Fréjus aujourd'hui. L'agriculture, il ne faut pas la délaisser, mais il ne faut pas l'imposer n'importe comment et à n'importe quel endroit. Je crois qu'il faut recentrer aussi quel devenir de notre agriculture pour mieux manger demain. Et je pense qu'il faut un travail, les PPRI qui sont sous le coude, je pense que ces PPRI, ils auraient dû faire l'objet d'une réunion commune entre toutes les communes, pas que chacun négocie dans son petit coin là. Parce que quand on regarde un peu les PPRI, on s'aperçoit que des fois la rivière, elle s'arrête en milieu de, vous savez pas, après elle va plus, l'eau elle y va plus, après elle s'arrête à un endroit. Et je pense qu'il y aurait eu intérêt à ce qu'on ait une grande coordination pour ces PPRI. Voilà. Donc je pense que je vais laisser la parole à d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie tous les deux et de la commission d'avoir fait ce travail qui est très intéressant pour l'avenir de notre département et de notre région en particulier. Merci.
Merci. Ben, simplement une petite remarque, c'est-à-dire que précisément ce qui nous a frappé, c'est qu'on avait, je vais commencer par là, tout le monde est de bonne volonté. Bon, il y a quelques escrocs ici ou là, mais c'est normal. Tout le monde est de bonne volonté et ça coince. C'est un peu ça le problème, y compris les fonctionnaires, ils sont de bonne volonté. Mais voilà, donc c'était un peu ça, on avait démonté le puzzle, comment ça se fait que c'est auto-bloquant ? Voilà, et l'idée c'est de dire, bah, tiens, si on posait le problème autrement, peut-être que ça débloquerait un peu. Voilà, c'est ça hein, la logique du dispositif.
Ce qu'on peut rajouter, c'est que non seulement on constate qu'on a un cadre législatif et réglementaire, je dirais, d'un état de droit très performant. Les textes ne manquent pas. On a ce qu'il faut, franchement.
Bon. Tu veux dire prolixe ?
On est même, oui, prolixe. Mais le résultat à l'arrivée n'est pas à la hauteur de l'épaisseur des textes. On a des drames à l'arrivée. Donc, ça pose problème. Ça doit nous interpeller. J'ai un texte, j'ai un dispositif remarquable sur le plan théorique. Sur le plan pratique et concret, j'ai des morts. Bon. Peut-être. Alors après, quand on regarde un peu au-dessus de notre épaule, on se dit, donc nous, on sait qu'on est les meilleurs. Bon, très bien, mais si on regarde un peu les copains, qu'est-ce qu'ils font en Europe ? Alors on trouve de tout. On trouve des gens qui sont en retard par rapport à nous sur certains points, mais tout à l'heure, Pierre-Yves l'a dit, chez les Italiens, ils sont moins performants dans certains domaines, mais ils sont meilleurs que nous dans la mobilisation de la population. Et ils ont des sortes de réserves communales qui sont d'une grande efficacité, qu'on ne conçoit pas dans un système très hiérarchisé, le nôtre. Bon, c'est un peu plus délicat, parce que on s'est aperçu également que dans les grandes catastrophes, on a fait venir des spécialistes des États-Unis, par rapport à Katrina par exemple, quand c'est la catastrophe, non pas, je dirais, l'inondation classique tous les 3 ans, hein, qui se transforme en catnat. Catastrophe naturelle. Mais tous les 3 ans, il y a une catastrophe naturelle. Donc il y a un problème, quelque part, aussi de définition et de sémantique. Mais quand vous prenez Katrina, vous voyez que l'amiral chargé de régler le problème nous a dit, c'est l'équivalent d'une catastrophe atomique, eh bien, on ne sait pas faire. Et comme l'a très bien dit Pierre-Yves, le message qui nous a été passé, c'est que dans un cadre comme ça, chacun, à tous les niveaux, essaie de faire au mieux. Et on arrive à des résultats en comptant aussi sur les petits, ce que j'appellerais les petits. Bon, alors que dans notre système à nous, très hiérarchisé, très compartimenté, bon, sur le papier c'est parfait, mais voilà. Et donc, quand on regarde un peu ce qui se passe à côté, on s'aperçoit qu'aux Pays-Bas, eh bien, il y a un système, alors, là aussi, de projection dans l'avenir que nous n'avons pas. On parle de 10 000 ans, tu l'as dit, de 4 000 ans, de 1850 ans. On parle aussi de 100 000 ans. Les Hollandais ont fait des simulations avec la catastrophe à 100 000 ans. J'ai jamais entendu dire ça en France. Bon, et donc, ensuite, ils regardent. Et on en arrive à dire que le principal, et ça devient beaucoup plus simple quand on dit ça, c'est de définir l'aléa que nous sommes prêts à accepter, à supporter ou à financer, hein, parce que ça revient à peu près au même. Et à partir du moment où vous définissez votre barre, il y a toute une série de choses qui vont avec, à la fois de protection, d'autoprotection. On a une loi de 2004 qui dit que les gens sont responsables aussi de leur propre sécurité, mais qui n'est pas appliquée. Et la jurisprudence, Pierre-Yves l'a rappelé, est une jurisprudence qui dérive parce qu'il faut chercher un responsable qui peut payer. Et donc, quand les collectivités, on l'a vu sur des cas pratiques, essayent d'améliorer un peu les choses, à la place des propriétaires qui devraient le faire, eh bien, s'il arrive un problème, le juge dira « Ah, 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 mais la collectivité a participé, donc elle est coupable. » Ah, bon, du coup, voilà. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des pays, la Hollande vit, 55% de son territoire est sous l'eau. Ben, ils se sont donné les moyens de leur politique, et on arrive à faire vivre. Vous avez Sommières, c'est pas très loin, ils vivent avec les inondations, ils sont habitués, ils ont les traits de tous les côtés, ils savent, ils montent, bon, très bien, et il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, avec des inondations catastrophiques. Vous allez à Passau, la ville jumelle où je suis, ils s'adaptent, les pompiers interviennent, la population sait comment elle fait, comment elle doit intervenir. Quand l'eau est redescendue, 3 jours après, tout le monde redescend au rez-de-chaussée, on remet les ordinateurs en place, on s'adapte. Et la conclusion, on a un titre, mais la conclusion, c'est s'organiser et se protéger pour mieux habiter les territoires inondables. Il n'est pas question, on insiste tous les deux, hein, il n'est pas question de transformer les zones rouges en zones blanches. Hein. Bon, parce qu'on a vu des choses extravagantes là aussi. Bon. Mais à partir du moment où on fixe le niveau d'aléa, vous savez ce qu'il en est des zones blanches, rouges et bleues, et à partir de là, vous donnez les moyens de votre politique, et nous l'avons dit tout à l'heure, un des outils qui nous paraît absolument indispensable si on veut sortir du discours et aboutir à quelque chose d'efficace, pragmatique. On est des pragmatiques, on est des élus de terrain. Eh bien, on arrive à un opérateur unique, hein, par bassin versant. Un opérateur unique par bassin versant, avec les moyens financiers de fonctionner. Voilà.
Monsieur le sous-préfet. Attendez, monsieur le sous-préfet a demandé la parole.
Monsieur le docteur. Je voulais vous remercier pour le travail que vous avez fait. Je crois que ce qui est très intéressant pour nous, c'est la comparaison que vous avez faite. Vous allez voir d'autres départements, vous nous aidez à sortir de notre territoire, vous allez voir d'autres pays. Et ça, vraiment, je crois que ça enrichit beaucoup notre réflexion. Et comme votre point de départ, c'est que le risque est là, et que la protection complète, on ne l'aura jamais, il y aura toujours de l'eau dans ces terrains inondables, nous mettez en perspective, et je crois qu'on a, on a un travail et une matière très intéressante. Je voudrais faire 3 petites remarques, si vous me permettez. La première, c'est que vous dites qu'il faut plus de débats, plus d'informations. Enfin, l'éducation risque, sans doute éternel départ, mais nécessité de faire plus d'informations, plus de débats. Je crois que c'est quelque chose que nous partageons tous. Et je dirais que c'est le sens de notre présence tous ici, avec vous, bien sûr, qui nous présentez vos travaux. Les maires qui sont là, qui vont intervenir, le président de l'association des maires qui est installé derrière, je le salue. Les associations, les services de l'État, les services de secours, on voit bien qu'il y a ce que vous appelez la communauté des bonnes volontés. Alors, il reste de la conviction à faire, il reste de du débat, de la discussion. Il peut y avoir des points de départ des uns qui ne sont pas le point de départ des autres, de voir comment on partage cette bonne volonté. Et je crois qu'avec derrière l'idée qui est la bonne, que l'eau reviendra, qu'il faut apprendre à vivre avec. Il faut lutter contre la violence collective. On voit bien que là, on a un point de départ collectif que nous partageons. La deuxième remarque, et j'ai pas eu votre courage, c'est que vous prenez une option sur les moyens. Vous parlez de fiscalité, vous ne contournez pas en tout cas ce sujet des moyens, qui aujourd'hui, dans tous nos débats, est une question centrale, on le sait, et n'est pas la moins difficile. Donc je vous en remercie d'avoir posé. Elle nous renvoie à l'obligation, je dirais, ancestrale, qui est que chacun doit entretenir son bord de rivière, qui venait du fait que les communautés anciennes qui vivent au bord de ces cours d'eau depuis toujours
toujours vivait de cette responsabilité individuelle. C'est-à-dire que
c'était une richesse.
C'était une richesse. Le bois était une richesse. La terre, à proximité directe, régulièrement abordée, était une richesse. Et puis c'était aussi l'incapacité de la collectivité de prendre en charge, donc la répartition de la responsabilité. Donc aujourd'hui, on est, vous l'avez décrit, hein, dans une dérive progressive de ces nouvelles responsabilités vers la collectivité. Et on voit que cette question du coup, de l'obligation élémentaire se pose. Je sais que certains, à la base vallée de l'argent, évoquent l'idée d'une espèce de remembrement le long des cours d'eau. On voit qu'il y a toute une réflexion, et c'est intéressant. Et qu'on est sans doute qu'au début de cette réflexion sur les moyens et les obligations des uns des autres. Et puis, troisième point, vous avez salué la nécessité de générer une vigilance de proximité, d'avoir des médiateurs sur pour lutter contre cette amnésie collective qui peut toujours revenir. Vous avez parlé des réservistes, des comités communaux des feux de forêt. C'est vrai que dans le Var, nous avons cette communauté très riche de proximité que certains nous envient. Et je crois que là, on a tout un réseau sur lequel les maires sont habitués à s'appuyer. Les gens ont souvent à la fois d'un grand professionnalisme, une grande disponibilité, et qui sont aussi quelque chose sur lequel il faut peut-être qu'on apprenne à mieux s'appuyer dans tous nos débats, dans toutes nos informations, dans toutes nos discussions, pour permettre ce consensus que vous appelez de vos voeux pour mieux avancer. Donc merci encore, et puis je vois qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Alors, vous avez les BPRI. Donc nous sommes engagés dans cette fameuse PPRI, on va faire un débat collectif sur les PPRI. Je dirais que c'est un des outils. C'est pas à la fois l'oméga de la lutte contre l'inondation. C'est un des outils, à côté des autres, hein, avec l'émission de l'ALEA, les travaux, les papilles, cette réflexion prospective. Alors sur les PPRI, nous avançons. Il y a eu 12 PPRI pris par anticipation, avant concertation, je dirais dans. Si je puis me permettre, dans l'émotion du drame des événements de juin et de juin et 10 novembre 2011, ou de ce qu'on m'a rapporté, la réflexion collective, hein, le consensus collectif, à ce moment-là, est un peu plus jamais ça. Vous nous dites, l'eau reviendra, il faut qu'on s'y habitue. Mais l'idée, c'était plus jamais ce drame. Alors, sur les PPRI, l'étape qui vient devant nous, sur les 12 PPRI anticipés, les deux qu'on a rajoutés en complément. Plus en amont du bassin, c'est les réunions publiques. Ça va être des réunions, j'espère qu'on aura, nous et pas, cette capacité d'écouter, comme vous le dites, et de faire avancer vers plus de consensus, et passer du dire de l'espère à un dire partagé entre les uns et les autres, une approche partagée, même si peut-être que 100% du consensus ne sera pas possible dès ce premier train, mais j'espère qu'on arrivera à le faire. Et l'objectif, c'est, dans la prochaine année, d'arriver à faire aboutir cette concertation pour ces PPRI définitifs. Alors, je souhaite que ces PPRI soient vivants. Les PPRI, voilà, on ne le bougera plus. En tout cas, ce n'est pas l'esprit dans lequel nous le faisons, bien entendu. Et j'espère que tout ce que nous engageons avec les conseils généraux et l'ensemble des collectivités de la base et l'argent sur le papier nous permettra d'avancer sur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, un grand merci pour le travail que vous avez fait. Puis, c'est une belle somme, quand même, un certain nombre de temps. Je ne suis pas sûr de l'avoir pendant que vous l'écoutez, d'avoir lu toutes les pages. Je vais parler de camouflage financier, alors c'est une notion qui est sans doute posée. Je vois qu'on a tout sur la table.
Vous arrivez vite au bout. Merci, je vous prie. Oui, je crois que l'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est que
il devient le centre des préoccupations et des angoisses. On ne peut dépasser ça que si on lit PPRI, PAPI, mise en, ce que j'appelle la mise en place de la prévention active. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des acteurs et des acteurs avec des moyens. Et c'est pour ça que je suis je milite vraiment fort pour que les élus concernés, appuyés sur la population, prennent vraiment le problème à bras-le-corps. Prennent à bras-le-corps, et ils pourront le faire d'autant plus facilement qu'on pourrait leur donner les moyens de le faire. Parce que c'est ça le nœud du problème. Bon, pourquoi jusqu'à présent il ne s'est pas fait grand-chose ? Parce que les organismes qui en sont chargés, ils n'avaient pas un soutien politique extraordinaire, je manie la litote, et des moyens plus que limités. Bon, donc il faut quand même bien savoir ce qu'on veut. Et je vous avoue que moi, tous ces discours sur... Oui, alors vous pouvez dire ce que vous voulez, proposer ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ça coûte un sou. Eh bien si, voilà. Bon, si vous voulez faire quelque chose, ça coûte des sous. Bon, il faut que ça serve à quelque chose, mais que ça coûte des sous. Monsieur le docteur, et puis...
Peut-être un mot complémentaire sur cette nécessité absolue, je dirais, à l'administration d'État, et donc à vous, monsieur le sous-préfet, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des élus, n'ayez pas peur de la population. Bien sûr, vous allez vous confronter quelquefois à des salles hostiles, mais ça nous arrive à nous aussi, vous savez. Bon, donc, pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'avez rien à cacher, nous non plus d'ailleurs. Bon, à partir de là, on est des êtres normalement constitués, donc vous nous mettez sur la table et on doit ensemble définir quel est le niveau de risque que nous souhaitons combattre. Et à partir de là, vous avez tout qui s'enclenche derrière. Il suffit de s'entendre.
Est-ce que vous voulez une protection à 10 ans, à 50 ans, à 100 ans, millénale ou à 10 000 ans ? Et chaque fois que vous mettez votre curseur, vous avez des conséquences derrière. Et après vous dites, soyons cohérents. Le curseur est là, très bien. Donc ça induit ça. Et ça, tout le monde est capable. Alors c'est vrai qu'avec Pierre-Yves, nous avons trouvé que l'expertise... n'était pas parfaite. C'est vrai que nous avons trouvé que l'on pouvait discuter des experts, parce que l'expertise n'est jamais faite que par des êtres humains, et que donc la façon dont vous abordez le problème peut vous donner une conclusion légèrement différente. Pour autant, globalement, on arrive à savoir à peu près où sont des zones inondables, à tel niveau de crue, et on a à peu près ça. Donc, on pourrait arriver, nous semble-t-il, à avoir des PPRI qui pose moins de problèmes parce qu'il y aurait davantage de concertation, de participation. On a l'impression que ça nous arrive d'en haut et ça nous tombe sur la tête. Et puis, c'est, comme tu dis, c'est à peu près, c'est comme ça, ça ne discute pas. Donc, vous êtes sûr du résultat dans ces cas-là. C'est à la fois une réaction épidermique des élus et de la population. Donc, on pense qu'on doit pouvoir faire nettement mieux dans ce domaine.
Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, je ne peux que m'associer aux propos de Madame Boyer, maire du Muy, pour vous remercier infiniment du travail considérable que vous avez accompli et qui aboutit à des propositions, des orientations concrètes. Et j'ajoute que, si je prends la parole, c'est en qualité de secrétaire général de Viva, c'est-à-dire Laval et la plaine du Val d'Argens, qui a réuni son assemblée générale en présence de M. le sous-préfet et de beaucoup d'élus récemment, et de M. le député Ginesta, et qui a émis une motion et des suggestions, et les réponses, on les trouve en grande partie, dans votre rapport. Si je me permets de prendre la parole tout de suite, car je sais que beaucoup d'autres personnes veulent le faire, c'est parce que nos associations travaillent la main dans la main, les trois associations qui sont étendues sur le bassin versant, depuis la SDN, l'association des sinistrés d'Anartubi, la DS15, qui est plus médiane, et puis nous qui sommes dans la Basse-Vallée, nous travaillons vraiment en très bonne concertation, et d'ailleurs, nous sommes réunis dans l'association locale Var Inondation, et aussi au niveau national, à l'Union nationale des associations de lutte contre les inondations, l'UNALCI, qui précisément fête ses 10 ans samedi prochain à Paris, dans une grande assemblée générale dans laquelle seront des élus locaux. Et pardon, des personnalités gouvernementales et des ministères. J'ai la tâche difficile, puisqu'on savait que je serais là aujourd'hui, d'avoir à rapporter en 10 minutes, monsieur le sénateur, monsieur le rapporteur, ce que vous venez de dire, et j'ai beau mettre des petits papiers dans le livre, comme le disait monsieur le sous-préfet.
Vous avez un magnifique 4 pages.
Voilà.
À votre disposition.
Alors, il y a le 4 pages qui sera certainement la Bible que je vais répercuter. Simplement, 3 choses, si vous permettez. La première est que vous avez terminé, tout en nous en apportant, évidemment, on ne comptait pas sur des miracles, mais l'urgence. Demain, s'il venait à pleuvoir, qu'allons-nous faire ? C'est l'angoisse de tous les sinistrés, et particulièrement du monde agricole, dont dépendent toutes les activités de la plaine de l'Argence, comme on l'a dit, monsieur le sous-préfet nous a entendu le dire et le répéter, parfois avec des mots très, très émouvants de la part des personnes qui sont dans l'angoisse permanente chaque fois que le temps se couvre. Qu'allons-nous faire dans cette situation? Je le dis pour ne pas avoir à y revenir. Ceci étant dit, bien sûr, nous sommes très heureux de vous avoir entendu poser comme principe la création d'un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant et peut-être à un échelon plus vaste des BTP pour toutes les inondations de la région. Et deuxièmement, vous avez souligné que le niveau régional serait probablement le meilleur chef de file pour coordonner tout cela. Et c'est vrai que le conseil régional, si je suis capable de comprendre ce qui se passe, le conseil régional, dans la perspective gouvernementale actuelle émise par M. le ministre des Finances, M. Pierre Moscovici, va être sans doute appelé avec le gouvernement, comme toutes les régions, à discuter et se répartir les ressources qui pourront provenir de la Banque publique d'investissement. Cette Banque publique d'investissement qui va être sans doute créée très prochainement par un débat à l'Assemblée nationale, puis suivant la procédure, cette Banque publique d'investissement sera dotée de fonds très importants pour de grands travaux opérés par les entreprises, les petites et moyennes entreprises et même les très petites entreprises, et c'est donc créateur d'emplois. Et je pense, comme vous l'avez souligné, que le traitement des inondations, l'aménagement du territoire dans cette perspective est une priorité des priorités et que, par conséquent, les fonds qui seront disponibles et mis à la disposition des différentes régions en concertation avec l'État seront prioritairement affectés à ce point, non seulement pour protéger chacun, mais pour protéger l'activité économique de notre région. Enfin, je m'interroge, et c'est pas très gentil de le dire, ce n'est absolument pas une critique que je formule, mais je m'interroge sur le poids d'un rapport sénatorial comme celui que vous présentez. Je sais que les rapports sénatoriaux sont très respectés. Quelle influence aurons-nous pour que la procédure que vous avez évoquée, des lois à mettre en œuvre, qui sera évidemment très longue, par quel poids votre éminente représentation pourra influencer le gouvernement pour que les choses ne restent pas dans les oubliettes. Merci de m'avoir donné la parole.
Docteur, si le destin des autres rétex, il y en a tout lieu de s'inquiéter. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, une surprise, c'est qu'on fait des rapports et puis voilà. Ceci dit, il est toujours bon de mettre les pieds dans le plat. Et je crois que la réflexion mûrit. On commence à se rendre compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, notre intention, je vous disais tout à l'heure, c'est de traduire tout ça en proposition de loi. Bon, qui passeront, qui passeront pas, ne serait-ce que la question fiscale, on va rigoler. Mais en tout cas, notre objectif, c'est de mettre les responsables au pied du mur. C'est-à-dire que, moi, je veux bien qu'on nous bassine avec la protection, le machin, etc. Mais qu'on désigne des chefs de file, des responsables, etc., et qu'on leur donne des moyens. Après, on pourra voter contre eux s'il faut parler au boulot. Bon, mais tant qu'on ne leur donne pas les moyens, c'est parler pour ne rien dire. Voilà. Donc, si vous voulez, on n'a pas... on ne se fait pas une division extraordinaire sur la portée de notre rôle. Enfin, de temps en temps, dire les choses clairement, ça soulage. Et puis ensuite, je pense quand même que ça fait mûrir. Et encore une fois, quand on regarde notamment les débats qui ont eu lieu à Bordeaux, enfin, etc., ce que font certaines... Et puis, ici ou là, des réflexions, ça mûrit quand même. Hein, ça mûrit et, je suis pas d'un optimisme béat, mais je pense que ça fait une contribution, c'est une pierre, je crois, qui va pour une voie romaine qui irait dans le bon sens.
Compléter l'intervention du rapporteur en disant que nous avons voulu, encore une fois, en tant que maire élu de terrain pragmatique, nous avons voulu faire un diagnostic, mais aussi des propositions. Ces propositions sont simples, elles sont claires. elles ne nécessitent pas d'interprétation très large. Elles seront peut-être difficiles sur le plan politique ou financier, mais elles sont simples. Créer un opérateur unique avec des ressources pérennes, on a regardé ce qu'on faisait aux Pays-Bas, on n'a pas inventé des choses extravagantes, on est allé voir ce qu'ont fait les meilleurs. Et les meilleurs ont trouvé le système. Un opérateur unique, des ressources pérennes, on sait faire ça, ça existe. Donc, nous, ce que nous proposerons, ce que nous allons essayer de faire, c'est une proposition de loi pour enclencher ce rapport avec nos propositions. Est-ce qu'elles seront suivies ? Dieu seul le sait. Mais en tous les cas, on va le faire. Et on a imaginé aussi quelque chose qu'on n'a pas dit, ni toi ni moi, c'est les compensations des contraintes. Quand vous faites un champ d'expansion pour protéger la ville aval, il y en a d'autres qui sont sous l'eau. Ceux-là, ils prennent à leur charge quelque part, ils ont une contrainte pour protéger et mieux protéger l'aval. Eh bien, il doit y avoir des systèmes de compensation, justement, pour protéger ou pour, justement, faire en sorte que ces contraintes soient prises dans le cadre de l'intérêt général. D'accord ? Mais à ce moment-là, il y a une compensation pour celui qui les subit.
Excusez-moi, je disais Hubert Barré, Confédération Paysanne. Je vous ai bien entendu là sur ce que vous disiez sur les. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que cette vallée doit continuer à être agricole? Si oui, il va falloir à un moment donné penser justement ce que vous disiez en aval, rétablir les canaux qu'il y avait autrefois et qui vidaient l'argent. Hein. Vous dites que Sommières a construit en dessous du niveau de... Ouais. Ben, mais en allant sur Fréjus, l'ancien Béal est construit. Et ça s'est passé il y a 50 ans. Hein. À un moment donné, il y a le bras mort de la vallée de... un bras mort qui va dans les états de... des étangs développés, qui ont une martelière. Il est bouché. Hein. Après, bon, on peut aussi curer l'argent, tout à fait, c'est une bonne idée. Hein. Mais pour en revenir, vous disiez des compensations, moi je demande à ce qu'on réouvre un peu ces chenons. Ce ne doit pas être très compliqué, déjà. Hein. Et...
Permettez, oui, justement, l'idée, c'est d'essayer de prendre le problème globalement. Et savoir, parce qu'on a évoqué le cas de Sommières, c'est assez spectaculaire. Si vous voyez l'organisation qu'ils ont, c'est pas comme ça. Donc on peut très bien imaginer, vous savez, ce qui se passe, je crois, dans la vaste vallée de l'Argence, c'est pas insurmontable.
Non.
Il y a une situation beaucoup plus difficile que celle-là. Donc l'idée, c'est de prendre le problème, non pas comme un problème de protection stricte, mais comme un problème d'aménagement. Qui intègre toutes les dimensions de l'aménagement, et s'agissant de la basse vallée de l'Argent, évidemment, sa dimension agricole. C'est ça, si vous voulez. C'est non pas dire, ah ben non, il n'y a pas à protéger, si, il y a aussi à protéger. Mais que la dimension protection ne soit qu'une des variables d'un problème beaucoup plus général, qui est celui d'aménager un territoire qui n'est plus, bon, s'agissant de celui que vous évoquez, qui n'est plus l'ancien territoire, etc., mais qui doit faire cohabiter sur un autre mode, mais aussi cohabiter des activités de nature différente. C'est ça, prendre le problème dans l'ensemble et pas bout par bout.
Oui, c'est ça. Tout à fait, mais moi, je vois très bien Venise avec Aqua Alta, et ça marche très bien. Mais ce que je veux dire par là, les paysans de la basse vallée de l'Argent sont habitués à avoir des petites inondations, et si la plaine était autant fertile, c'est justement parce qu'il y avait ces inondations qui ont un système, comme on dirait, sur le Nil, où il y a des apports d'alluvions. Hein. Mais le problème, c'est que ces 50 dernières années, il y a eu une manne autre, qui était donc la manne immobilière, et que, justement, l'immobilier a poussé de partout, en faisant aussi des exhaustions de sol, et donc, à un moment donné, on se retrouve avec des endroits rétrécis où l'eau doit passer, et où ça monte en hauteur. Ce qui serait bien, c'est de remettre un peu les pendules à l'heure à ce niveau-là.
Non, Mais tout à fait. Le problème étant de ne pas se limiter au constat, mais de trouver des solutions pour essayer de sortir de cet état. C'est ça un peu l'esprit, si vous voulez. Après, le détail, bien évidemment, on n'est pas allé dans le détail.
Oui, merci. Christian Desplats, conseiller régional et président de l'Agence régionale pour l'environnement, qui est un syndicat mixte qui réunit la région et les départements sur les thématiques de rivières notamment. Je voulais vous remercier pour ce rapport, que je n'ai pas encore lu, comme chacun d'entre nous, mais qui d'ores et déjà reprend un certain nombre de nos suggestions, de nos réflexions. Et je voulais vous en remercier parce que c'est un travail qui avait été élaboré avec 60 structures de gestion déléguées sur l'ensemble du territoire régional, et notamment avec certains des participants à cette réunion. Je me félicite que vous ayez été au-delà en rendant obligatoire la notion d'opérateur de gestion publique, qu'on appelle pour l'instant les pages, qui s'appellera peut-être différemment, parce que je pense que ça va simplifier énormément les choses. Quand on rend les choses possibles, contractuelles, de volontariat, etc., on sait très bien qu'il ne se passe pas grand-chose. Et la notion d'obligation va rendre les choses extrêmement claires, ne serait-ce qu'au niveau d'un territoire. Quand on dit par bassin versant, c'est pas avec la commune d'à côté parce qu'on s'entend bien, ou on laisse tomber l'autre commune parce qu'on s'entend moins bien, c'est vraiment une notion de bassin hydrographique. Et donc ça peut être mis en place extrêmement rapidement, sans négociation. On est dans le bassin versant, on n'y est pas. Donc pour moi, c'est vraiment important que vous ayez été jusque-là, et j'espère qu'on pourra avancer rapidement. Le problème des ressources est entier, mais on le sait. Ça a été souligné, il va y avoir des opportunités législatives, notamment avec l'axe 3 de la décentralisation. Vous avez évoqué la compétence de la région, des départements, ce sera au législateur d'en décider. Effectivement, le Var a une particularité, c'est que l'ensemble de son bassin hydrographique est sur son territoire, alors que dans d'autres départements de la région, on a des cours d'eau qui passent d'un côté à l'autre, et le législateur décidera, mais a priori, la vision régionale, au moins au niveau de la coordination, peut être intéressante. Vous avez dit aussi qu'il faut les moyens de gouvernance institutionnelle, qu'il faut l'obligation légale, qu'il faut la ressource. Je me permettrai d'insister sur les moyens juridiques. Et vous l'avez dit, on va toucher à la propriété privée. Hein, les cours d'eau non domaniaux sont sur propriété privée, et je pense qu'il faudra être attentif à ce que les textes de loi qui vont décliner ces propositions donne les moyens aux gestionnaires, à l'opérateur unique ou à l'EPAGE, d'intervenir. Et donc, c'est toute la question de la servitude publique, la servitude d'utilité publique, ou les PIG. Enfin, il faudra trouver l'outil juridique qui donnera effectivement les moyens à ces structures d'intervenir sur le terrain, sans avoir à engager des procédures lourdes dont on ne connaît jamais l'issue.
Je pense qu'on touche du droit le cœur du dossier. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est le 25e rapport à mettre sur étagère ou essayer de trouver une solution? Parce qu'on a constaté avec Pierre-Yves, encore une fois, qu'on n'était pas d'une efficacité totale et certaine. Donc cette idée d'un opérateur unique obligatoire, ça n'apparaît pas ici dans le rapport, mais on en a discuté tous les deux, et je pense que dans la proposition de loi, on précisera obligatoire sous 3 ans. On se donne une date. Si on ne se donne pas, c'est obligatoire, mais dans 25 ans, ça peut... Bon. Donc, moi, je préciserai très facilement, c'est sous 3 ans. Donc, les collectivités ont cette obligation de faire, elles ont 3 ans. Si au bout de 3 ans, elles se sont permis d'accord, par exemple, 3 ans, bon. À ce moment-là, c'est le préfet qui prend la main et qui va faire, lui, et avec des ressources. Parce qu'on a constaté, là aussi, que si on faisait quelque chose sans ressources, là aussi, ça ne servait à rien du tout. Donc il faut cet ensemble-là et cette vision globale sur cet opérateur unique pour le créer et lui donner ensuite les possibilités d'intervenir avec ce que vous avez dit tout à fait, c'est-à-dire un cadre législatif qui va lui permettre d'intervenir sans chaque fois déposer un programme d'intérêt général.
Oui,
bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Enfin, il vous restera plus qu'à le dire. Donc, il y a aussi plein de propositions différentes. Enfin, je pense que globalement, comme disait Yann Boyer tout à l'heure, je crois qu'on a essayé de coller au plus près des préoccupations des uns et des autres. Et encore une fois, nous pensons que c'est qu'en prenant le problème globalement et sans éluder le problème, la responsabilité, les possibilités et les problèmes financiers, qu'on pourra arriver à apporter une solution pérenne. Moi, je préférerais qu'on se donne plus de temps, etc., pour réaliser, mais qu'on ait des étapes fixes et qu'on finance plutôt que de faire semblant. Parce que ce serait, vous savez, comme j'ai été maire suffisamment longtemps pour savoir que le tout se résume dans le budget. Hein. Bon. Alors, ça servirait à rien. On n'est vraiment pas d'une nature à dire bon, ben, on vous donne des obligations, puis vous vous débrouillez. Hein. Non, il faut être sérieux. On ne peut sanctionner éventuellement électoralement les gens qu'à partir du moment où ils n'ont pas fait leur boulot. Et s'ils n'ont pas fait leur boulot, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, et pas parce qu'ils ne voulaient pas. Voilà. Donc, ça me paraît d'une clarté évangélique. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, il nous reste à vous remercier. Et encore une fois, j'espère qu'il y a eu assez de courage pour satisfaire tout le monde. Merci à tous.
Merci.